C'est une joie d'être au milieu de vous là ce matin et c'est toujours une joie d'être dans la présence de Dieu. Non ? J'aime la présence de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Vous savez, personne n'est persécuté dans le monde à cause de Blanche-Neige et les sept nains. Hein ? Mais par contre, à cause de la Bible, on tue des gens, hein, parce que ce livre, il est contagieux. Il est dangereux. Il est dangereux. La parole de Dieu est puissante. Est-ce que tu le crois ce matin ? La parole de Dieu est puissante. Est-ce que tu le crois ce matin ? Alléluia ! Que Dieu dispose notre cœur. En tout cas, je remercie votre pasteur pour l'invitation et c'est une joie d'être au milieu de vous ce matin. Je me rappelle, j'étais tout jeune, peut-être il y a une trentaine d'années, hein, même un peu plus, où on venait chanter avec la chorale ici, hein, à l'époque d'Alain Trichard. Là. Alain Trichard, ouais. Ouais, c'est mon maître de stage, mon préféré. J'en ai eu qu'un, c'est lui. C'est pas difficile, mais c'est un amour avec Rosemary. Je les ai pas eus récemment au téléphone, mais si je les avais eus, ils vous auraient fait des gros bisous, c'est sûr et certain. Voilà, en tout cas, j'aimerais peut-être avant de commencer qu'on puisse prier le Seigneur et qu'il puisse disposer notre cœur et nous faire du bien dans ces instants. Gloire à Dieu. Seigneur, je ne suis rien du tout. Je suis qu'un instrument. Je suis qu'un tuyau d'arrosage, mais ce qui arrose et amène la vie, c'est toi, Seigneur. Amen. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire, mais au travers de toi, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Notre évangile n'est pas voilé, il n'est pas vide. Mais il est puissant pour celui qui croit, pour celui qui a un cœur disposé. Seigneur, toi, tu n'as pas changé. Nous, nous changeons. Nous, nous nous décourageons. Nous, nous pouvons lâcher ta main. Mais toi, tu es fidèle. Et tu l'as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ce que tu faisais il y a 2000 ans, tu le fais encore. Ce matin, viens confirmer ta parole, Seigneur. Viens baptiser dans le Saint-Esprit. Viens délivrer au nom de Jésus. Viens restaurer les cœurs, Seigneur. Et viens guérir, c'est ta spécialité. Seigneur, on s'attend à toi. Seigneur, on ne peut rien faire sans toi. Mais ô Jésus, tu veux encore toucher les cœurs. Parce que tu aimes que les hommes et les femmes et les enfants s'approchent de toi. Parce que tu ne cesses de bénir. Tu ne cesses de toucher. Gloire à ton nom. Amen. Donc j'ai servi quelques années avec Alain Trichard hein, pendant 5 ans et ensuite je suis parti ouvrir une œuvre, en tout cas la développer. On a commencé avec un petit groupe de 4-5 personnes sur Saint-Maximin, la Sainte-Baume, petite ville de 15 000 habitants, 18 000 habitants maintenant, hein, c'est un peu grandi. Et on a commencé, c'était compliqué parce qu'on faisait tout a cappella. Même les chants, c'était a cappella parce qu'on n'avait pas de musicien, on n'avait pas de chantre, on n'avait pas de moniteur, on n'avait pas de monitrice, voilà, nada. Mais on avait Jésus. On a Jésus. Et avec lui, tout est possible. Et l'œuvre a commencé par le jeûne et la prière. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne vais pas vous apporter 10 clés pour réussir votre vie. Vous voulez réussir votre vie, pliez les genoux devant le Seigneur et criez à lui parce que quand tu es malheureux, crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Amen. Et le Seigneur, alors qu'on a commencé l'œuvre, des gens venaient liés, possédés par des esprits impurs. On avait un petit local, je me rappelle, de 30-40 mètres carrés. Et les gens, ils rentraient à l'intérieur alors que personne ne les avait invités. Mais après, ils racontaient qu'une force les poussait à rentrer. Ils rentraient, il y avait une parole de connaissance. Ils étaient dévoilés dans leur cœur et ils donnaient leur cœur à Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia, Jésus n'a pas changé. Et même si on est dans une petite ville, même si on est dans un endroit compliqué, nous, c'est le 3e tombeau de la chrétienté. Et ouais, il y a la basilique, là, il y a 300 000 personnes qui viennent faire un pèlerinage parce qu'ils ont trouvé, soi-disant, les eaux de Marie-Madeleine. Et donc, du coup, c'est un endroit assez touristique et un endroit qui était difficile à percer, mais ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, on a un beau bâtiment hein, et on est pratiquement 300 personnes avec 70-80 enfants. Et la vision que Dieu nous avait montrée au début, elle s'est accomplie parce que au tout début que je suis arrivé, le Seigneur m'avait montré un studio d'enregistrement, une école de musique et de la radio chrétienne. Et aujourd'hui, on fait des émissions pour plus de 40 radios chrétiennes. On a une école de musique avec 200 élèves. On a à peu près 14-15 moniteurs payés à plein temps par l'école de musique. On est trois dans quand le ministère à plein temps à Saint-Maximin, la gloire revient à Dieu, parce que moi, j'y suis pour rien. C'est le Seigneur qui a fait toutes ces choses. Mais tout ça pour vous encourager de ne pas voir trop petit, parce qu'avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, tout est possible. Est-ce que tu le crois ? Amen. Je reviens de mission à Abidjan, j'étais en Côte d'Ivoire et vraiment ça a été un temps béni, un peuple assoiffé de la présence de Dieu. J'ai halluciné toute la semaine, les gens travaillent du matin au soir là-bas, c'est pas facile au niveau des salaires et tout ça, c'est des gens très pauvres, mais c'est des gens qui sont fervents et qui aiment la présence de Dieu. Et pendant les chants, c'était un peu différent de ce matin quand même. On a commencé à chanter, vous connaissez « Je louerai ton nom ». Je veux chanter et louer, peu importe ce que je suis, le ressuscité vit en moi. Yeah. Chez nous, on est coincés, mais pas quand on va au stade Vélodrome. Va au stade Vélodrome, même les Marseillais, ils ne sont pas coincés. J'aimerais dire, moi je suis un piètre danseur, mais là-bas tellement que j'aime la présence de Dieu. On s'est mis à tous à chanter, à danser, à sauter devant le Seigneur. Et je vous garantis que ce n'était pas charnel, parce que dès que la musique elle a terminé, ceux qui étaient possédés, liés par des esprits impurs, tombés, délivrés par le Seigneur. Et il y a eu beaucoup de guérisons. Il y a une maman, je vais raconter un témoignage, parce que c'est vraiment un témoignage qui m'a vraiment touché. Il y avait une maman qui était là et... Son enfant ne pouvait pas marcher depuis qu'elle est petite, en fait, elle avait 2 ans là, et elle avait une maladie assez grave. Et cette maman, au fond de son cœur, s'est dit, voilà, je vais aller à l'imposition des mains, mais c'est pas pour moi, Seigneur, c'est pas pour moi, c'est pour mon enfant. Et je t'en supplie, Seigneur, fais quelque chose pour mon enfant. Les médecins ne peuvent rien, mais toi, tu peux faire quelque chose. Elle est venue devant, moi, je ne savais rien, je ne sais même plus de quelle manière j'ai prié, mais Dieu, il connaissait la prière de son cœur. Ce qui est important, ce n'est pas moi, c'est la foi que tu mets en ton Dieu. Ce qui est important, ce n'est pas le serviteur de Dieu. Ce qui est important, c'est la confiance que tu mets dans le Seigneur Jésus et de croire en sa capacité à guérir toutes les maladies. Cette femme a senti un feu qui l'a traversée et lorsqu'elle est rentrée le soir, sa fille marchait, quelqu'un peut dire amen. Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. On a eu des temps forts dans la présence de Dieu. Tous ceux qui sont venus devant ont tous reçu le baptême du Saint-Esprit. Et ça a été le cas aussi récemment quand j'ai fait une mission à Dunkerque et aussi à Narbonne. Parce que ce soit en Afrique ou ici, si le cœur il est disposé, il reçoit. On le croit ? J'aimerais rentrer dans le vif du sujet avec vous ce matin et vous parler de quelque chose de très important, le témoignage. Oh là, c'est silencieux d'un coup. La puissance du témoignage. Nous sommes, habitués maintenant à parler de Jésus, certainement, et même à développer certaines, thématiques de la Bible, puisque ça fait des années, pour la plupart d'entre nous, on est chrétiens. On est capable de ça. Mais l'évangile n'est pas une question de quelque chose de théorique seulement et d'intellectuel. C'est comme si devant toi, tu aimes manger par exemple la paella, tu as un plat de paella et tu as une feuille avec la photo d'une belle paella. Tu peux la couper la feuille, la photo elle peut être belle mais ça ne te nourrira pas. Ce qui va te nourrir c'est de plonger ta cuillère là dans la vraie paella. Hein? Et ça c'est ce qu'on appelle la foi vivante. Il y a une différence entre une foi théorique et vivante. La foi vivante elle s'attend à Dieu. La foi vivante, elle n'est pas là, les mains dans les poches, en disant, on verra bien ce qu'il va nous dire ce matin. La foi vivante, c'est la foi d'un enfant qui dit, Seigneur, peu importe ce que tu me demandes, peu importe ce qui va se passer, nous croyons à l'action de ton Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Bien souvent, les années, on est là, on est coincé, on est là, on ne tape pas des mains. Dès qu'on sort, on fait des anniversaires. Wouhou ! Le peuple de Dieu n'est pas appelé à être un peuple coincé. Le peuple de Dieu n'est pas appelé à être un peuple bridé. Mais la liberté des enfants de Dieu est d'ouvrir son cœur. On ne vient pas pour prier pour les autres, entendre notre belle prière, mais on vient ouvrir notre cœur et s'adresser au Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bon, je ne vais pas attaquer là. 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 2. L'apôtre Paul va, dans cette deuxième épître de Paul à Corinthe, va s'adresser aux Corinthiens. Corinthe, c'est particulier quand même. Vous savez, des fois, on s'imagine qu'il faut avoir une consécration assez importante, hein, quoique il est très important d'être consacré et de marcher avec le Seigneur. Pour que le Seigneur nous donne des dons, c'est faux. Les dons ne sont pas liés à notre consécration. Dieu, il donne en fonction de la foi. D'accord ? La preuve, Corinthe, ils avaient tous les dons et c'était du grand n'importe quoi. C'était un dérèglement. Les uns couchaient avec les autres. En avanti, c'était du grand n'importe quoi. Et pourtant, Dieu a honoré leur foi et les a équipés. Ce n'est pas un signe de maturité spirituelle que de parler en langue ou d'exercer des dons spirituels ou un signe d'approbation de Dieu. C'est juste parce que Dieu est fidèle et il donne à qui il veut. Donc ça ne nous dispense pas de nous consacrer. Je peux donner des dons spirituels, je peux parler en langue, je peux avoir des dons et plusieurs dons et ne pas avoir l'approbation de Dieu dans ma vie. J'ai besoin, et c'est ce qu'on va voir ce matin, du travail du Saint-Esprit en moi, d'accepter que Dieu me façonne. Et alors que j'accepte ce travail, il va se passer quelque chose dans ma vie, c'est qu'une onction va se dégager de ma vie. L'onction ne vient pas comme ça. L'onction, elle vient au travers des échecs, des épreuves, du brisement. Voilà, et si on croit que ça vient autrement, n'écoute pas tous ces faux prophètes sur Internet, n'écoute pas ces fausses doctrines sur la prospérité, même des sites qui marchent bien, des fois ils sont bien habillés, ils sont cool, mais ce qui est important, c'est d'écouter le véritable message qui transforme les vies. Il n'y en a qu'un seul, c'est celui de la parole de Dieu. C'est cette parole que nous aimons. J'aime beaucoup votre pasteur, pas parce qu'il m'a invité, hein. Mais pourquoi ? Parce que, faut que je fasse gaffe à ce que je dise, parce que si les pasteurs, ils écoutent. Vous savez, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu le vois, même s'il passe des moments difficiles, tu ne le sais pas. Parce qu'il a toujours un sourire. Mais c'est la base, frérot. Tape là. C'est la base, ça ? C'est la base ? Un chrétien, un serviteur de Dieu, avant tout, c'est un gars, une fille agréable. Vous n'avez pas remarqué, des fois, le dimanche matin, tu arrives, les gens ils sont désagréables, un peu condescendants, parce qu'il y a un problème de nouvelle naissance ou alors de renouvelle naissance. Et peut-être que c'est ton cas ce matin et que tu es toujours triste, toujours en colère, que tu as un problème. À la lumière des Écritures, on va voir que Dieu peut changer tout ça. Tu ne peux pas rester avec la colère. Tu ne peux pas rester avec le visage fermé. Tu ne peux pas rester désagréable. Parce que la mentalité du royaume, c'est la joie. La joie de l'Éternel sera ma force. La joie de l'Éternel. Amen. Un chrétien, il est joyeux, pas parce que tout va bien dans sa vie. Un chrétien, il est joyeux parce que son nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. J'en ai eu plein de problèmes dans ma vie et des grandes difficultés. Et si j'avais été obligé d'attendre que les bons moments arrivent pour être heureux, j'aurais pas été souvent heureux. Mais ma joie, elle dépend pas de tout ça. Elle dépend de toi, Seigneur, et de me tenir dans ta présence. Amen. Allez, lisons ensemble ce que va dire l'apôtre Paul. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Verset 3, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, elle vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Amen. Paul va faire une comparaison entre une lettre écrite sur la pierre, quoique c'est le doigt de Dieu qui a écrit cette lettre, hein, les 10 commandements, et qui a été peu productive dans les cœurs. Ça n'a pas changé les vies, ça. Au contraire, le peuple de Dieu, il s'est endurci encore davantage. mais celle qui est écrite dans les cœurs par le Saint-Esprit, qui communique la vie. Pierre le dira, à quel autre irions-nous qu'à toi ? Tu as les paroles de la vie. Nous avons besoin de la parole de Dieu, qu'elle soit révélée par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui va nous nourrir, c'est ce qui va nous faire du bien. Merci Seigneur pour les Gédéons qui distribuent des Bibles de partout. Merci Seigneur pour ceux qui évangélisent et qui donnent des tracts. Merci Seigneur pour ceux qui travaillent à l'évangélisation. Mais bien plus que distribuer des Bibles, Dieu t'appelle. Dieu m'appelle à être une Bible vivante. Parce que nous transmettons tous un message. Lorsque je marche par la chair, par mes sentiments, alors je vais transmettre quelque chose d'émotionnel, de charnel, qui ne changera pas la vie. Si je laisse le Saint-Esprit travailler à l'intérieur de moi, au plus profond de moi, alors je vais transmettre un message puissant et fort. On peut dire amen, hein ? On transmet tous un message. Quel genre de message je transmets ? Quel genre de message vous transmettez dans votre famille, à votre mari, à votre épouse, à vos collègues de travail et à l'église ? Parce que tu sois à l'église ou en dehors de l'église, je suis un témoignage vivant et je suis appelé à être une Bible vivante. Et les gens, ils lisent en nous le bon et le moins bon. On veut que les gens lisent que le bon, hein ? Mais le moins bon, il est là. Et il va être détruit par le travail du Saint-Esprit. À ce que je sache, Paul dira, ne pouvez-vous pas vivre quelques injustices ? Ah là, c'est... On dit pas amen. Ne pouvez-vous pas vivre quelques injustices pour la destruction de votre chair ? Quand va venir le moment des injustices, des échecs dans ta vie, remercie le Seigneur parce qu'il est en train de travailler avec toi afin que tu transmettes un message puissant. Je ferme la parenthèse. Amen. Si je vous dis David, à quoi penseriez-vous ?
Allez-y. Vous n'avez plus de bouche ?
David, le roi David, Goliath. La première chose qui vont venir, c'est Goliath. David nous a transmis un message de quoi ? De vainqueur. David nous a transmis un message de vainqueur. Un message de triomphateur face à la difficulté, face à Goliath. Tout le monde est tétanisé. Oh, ça fait 40 jours qu'ils entendent, le matin et le soir. Est-ce que quelqu'un peut me vaincre ? Si quelqu'un arrive à triompher de moi, tous les Philistins seront assujettis. Mais par contre, si vous n'arrivez pas à me vaincre, alors vous serez tous mes esclaves. Le diable dit des mauvaises paroles, des paroles qui sont lourdes spirituellement et qui veulent nous étouffer et nous faire croire qu'avec Dieu, ce n'est pas possible. Mais David, il nous a transmis un message. Un message de quelqu'un qui se bat. Un message de quelqu'un qui est courageux. Un message de quelqu'un qui est prêt à tout pour défendre le nom de son Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui a travaillé David. C'est l'Esprit de Dieu qui a façonné le cœur de David lorsqu'il était dans le désert avec les brebis. Personne ne le voyait. Personne. Il était avec les brebis. Même son père, il a présenté à Samuel tous ses fils sauf lui. Mais bon, si tu penses que les gens ne te remarquent pas, lui par contre Dieu te voit. Et Dieu ne t'a jamais oublié. Et il y a quelque chose qui a animé ce David. Je ne sais pas vous, hein, quand vous lisez le texte, moi je lis le texte et j'essaye de me mettre à la place du gars qui a vécu ce truc-là. Non ? Tu es là et tu lis ça dans la Bible, que David, lorsqu'un lion venait, ou un ours, il courait et lui mettait la rouste, comme on dit chez nous. Vous lisez ça comme moi ? La Bible nous dit, il s'occupe des brebis et David, il va se mettre à courir pour mettre la rouste au lion et à l'ours. Mais c'est un truc de fou. Toi, tu vois un ours ou tu vois un lion, tu fais « aïe, 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 caramba !» Tu vas réfléchir dans ta tête. Tu dis, attends, je vais courir après, il va me manger celui-là. Hein ? Alors, qu'est-ce qui a fait que David a trouvé du courage alors qu'il est tout jeune pour se battre et détruire l'ours et le lion ?
Courage.
Vous savez ce que c'est le mot, la racine du mot courage ? Cœur. Amour. Eh ouais. Quand on aime, on se bat. Quand on aime Dieu, on se bat. Quand on aime Dieu, il y a une chose. Si David y rentrait ici, on aurait envie de remporter des victoires. Si je vois un frère, une sœur découragée, je ferai comme David. Je transmettrai un message. Mon frère, ma sœur, qu'est-ce qui se passe ? Tu n'es pas bien ? Allez, on va prier ensemble. Et ce géant, on va le faire tomber. Alléluia ! Si David rentrerait, il nous emboucanerait, comme ils disent à Marseille. Il nous donnerait envie de croire que toutes les addictions, que tous les géants, ils peuvent tomber au nom de Jésus. Il nous transmettrait ce message. Est-ce que je transmets ce message quand j'arrive le dimanche matin à l'église ?
Où est-ce que je suis là ? Ça va ?
Ouais, ça va. Et toi, ça va ? Non, est-ce que ça va ? Oui, ça va. J'ai galéré toute la semaine, j'ai perdu mon travail, mais ça va. Ça va très bien même, ça va très bien. Parce que celui qui vit en moi, il est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Il est celui qui me donne du travail. Il est celui qui renouvelle mes forces pendant la marche. Il est celui qui élève mon âme. Il est celui qui restaure mon cœur. Il est celui qui me bénit. Il est celui qui m'encourage. Il est le matin, l'étoile du matin. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le meilleur des amis. Il est le sauveur du monde. Il est mon sauveur personnel. Il est l'ami fidèle. Donc s'il rentre ce matin, là, David, il nous met le feu. Il nous transmet ça. Est-ce que le Seigneur a réussi, au travers de ta vie, à écrire ce message en toi ? Ou est-ce qu'il y a encore la place aujourd'hui pour que tu sois suffisamment souple pour qu'il écrive ce message en toi ? Si je vous dis Abraham, à quoi penseriez-vous ? Le père de la foi. Et en quelles circonstances il a démontré sa foi, Abraham ? Isaac, il a offert son propre fils, Isaac. Vous savez, on dit le père de la foi, mais au début, ma foi. Le Seigneur va dire à Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je te montrerai. Il va lui donner des paroles précises et claires, en fait. Mais en fait, rien n'est clair pour celui qui ne veut pas obéir. Vous n'avez pas remarqué ? Il va lui dire, quitte ton père, quitte ta famille et va vers le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il fait ? La Bible nous dit, il ne part pas vers le pays que Dieu lui a montré. Il va s'établir à Charan, qui veut dire retarder. Donc, il va là-bas, il garde son père parce que, je ne sais pas, peut-être j'aurais fait la même chose. Est-ce que j'aurais abandonné mon père ? Seigneur, je ne comprends pas. Tu me demandes d'abandonner mon père, j'ai mal compris, impossible. Tu ne peux pas me demander d'abandonner ma famille. Donc, ce n'est pas une parole qui vient de toi, à mon avis. Je ne vais pas abandonner mon neveu Lot. Dieu veut nous apprendre à obéir sans comprendre. Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande d'obéir. Dieu ne te demande pas de comprendre, il te demande de lui faire confiance. C'est chaud, là, hein ? Je ne l'ai pas toujours fait, moi. Moi, je ne suis pas un donneur de leçons, je suis juste un messager ce matin, ne me regardez pas de travers. Moi aussi, je n'ai pas obéi plein de fois. Hein. Mais je me suis pris beaucoup de murs. Hein. Paul, il dit, j'ai appris. Moi, j'ai beaucoup appris. Et ouais, malheureusement, bien souvent, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos échecs. Et j'en ai vécu avant d'être pasteur et aussi pendant quand j'ai été pasteur. Pas mal même. Eh oui, on est pasteur, on n'est pas... On est des brebis avant tout. Le pasteur, il a pas mal de problèmes quand même. Vous savez ça ? Il a les siens. Vous savez qu'on a des problèmes, nous aussi. Et quand les enfants crient, on a mal à la tête aussi. On a la tentation de vouloir régler les choses par nous-mêmes aussi. Hein ? Et en plus, le pasteur, il a tous vos problèmes. Est-ce qu'on peut applaudir le pasteur quand même ? Ah, c'est pas une question de l'encenser, c'est une question de le respecter, et c'est une question de prier pour lui. Franchement, c'est pas facile d'être pasteur. Hein. Tu veux être pasteur ? Réfléchis bien. Déjà, il faut que ce soit Dieu qui t'appelle. Hein. Ce n'est pas un diplôme qui fait de toi un pasteur. Hein. Allez, je ferme la parenthèse. Donc, on est en train de parler de... Ah, voilà, je croyais que vous ne vous suiviez plus. Malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé ? Même s'il a désobéi à Dieu, son père, il est mort. Et Lot, il est parti, ils se sont quand même séparés au bout du compte. La Bible nous dit qu'il a offert Isaac son fils, qu'il avait de plus cher. Vous savez, nous, on lit les choses comme ça. Mais toi qui es parent, ou même toi qui ne l'es pas, si tu n'es pas parent, tu es enfant, tu as des parents. Tu as des gens que tu aimes autour de toi. Alors imagine, allez mon fils, on va aller à la montagne, on va sacrifier. Oui papa, chouette et tout. Premier jour, il est là, il marche, parce qu'avant, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de cyclo. Et il n'y a pas de moto, il n'y a pas de voiture. Tout se fait à pattes. Et c'est long, hein, entre l'endroit où il partait. Et... OK ? Et Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Vous imaginez dans la tête, la pagaille qu'il y a dans la tête de Abraham ? Et ouais, des fois, c'est ça, dans la vie chrétienne, il y a une grosse pagaille dans la tête, hein, quand Dieu nous demande de faire quelque chose. Et là, voilà qu'il marche. Papa, il fait beau aujourd'hui, hein ? Oui, mon fils. Papa, il est où l'agneau pour le sacrifice ? T'inquiète. Et là, dans sa tête, ça doit cogiter grave, d'accord ? Et là, il a la tentation de dire, je vais tout arrêter là. C'est impossible, j'y arriverai pas. C'est trop dur. Mais il va continuer. Et il va persévérer. Ah oui, il n'est pas devenu le père de la foi comme ça, en fait. Mais il est passé par l'obéissance de la foi. Et il continue, et voilà qu'on s'approche de la montagne. Papa, il est où l'agneau ? Papa, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu m'attaches ? Papa, qu'est-ce que tu fais ? Et là, le père, il va avoir les larmes aux yeux. Il va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire là ? Et voilà que le papa va prendre le couteau. Papa, papa ! Et là, il a l'intention de le faire. Et au moment où il va pour le faire, Dieu va lui dire, maintenant, je sais que tu m'aimes. Et Dieu va pourvoir. Ah ah. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Seigneur, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. On n'a jamais fait cette prière ? Demande-moi ce que tu veux. Ben déjà, sois fidèle et comme Abraham, mon serviteur, donne ta dîme tous les mois. Déjà, ça, c'est ce que je veux. Et ensuite, donne des offrandes aussi. Parce qu'il faut que l'église elle avance, il faut qu'il manque de rien dans ma maison. Hein ? Vous savez, la dîme, Abraham il a donné, ce n'était pas la loi. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas sous la loi la dîme, c'est une loi morale. Parce que si c'était sous la loi, ça serait après Moïse. Mais avant Moïse, Dieu a inscrit quelque chose dans le cœur d'Abraham, c'est que tout vient de Dieu et qu'il y a une part qui lui revient. Et cette part, c'est 10% des revenus. Parce que c'est un révélateur de générosité. C'est pas ce que ta bouche dit qui démontre que tu es généreux. C'est ce que t'as, c'est quand tu vides tes poches. Qu'est-ce que, qui démontre que tu es obéissant ? C'est quand tu le fais régulièrement, pas que quand tu as envie. Qui c'est qui est locataire ici ? Levez la main. Est-ce que vous donnez à votre propriétaire ce que vous avez décidé tous les mois ? Hein ? Vous avez 800 euros de loyer, vous lui donnez 400. Est-ce qu'on a donné notre vie à Dieu ? Oui ou non ? Donc, nous ne sommes plus locataires, propriétaires, nous sommes locataires. C'est-à-dire, si j'ai donné ma vie à Dieu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et je suis l'habitation du Dieu vivant. Donc, si je suis locataire, le propriétaire a décidé d'un prix minimum et au-delà, c'est la générosité. Et là, j'entends quelques-uns d'entre vous qui disent... Mais la Bible, la dîme, ce n'est pas néo-testamentaire. C'est vrai. La grâce de Dieu, elle est plus excellente. À partir de Actes des Apôtres, c'est 100%. C'est tout pour Dieu. Non, ça va, la dîme. On reste à 10%. Vous savez, je plaisante un peu, mais Dieu ne plaisante pas ce matin. Parce que bientôt, il va revenir. Et tous les mois, il a vu ce que tu as fait. Il a vu ce que j'ai fait. Il regarde mon obéissance. Il ne regarde pas mes paroles, lui. Hein, il y a une chanteuse connue qui disait « parole, parole, parole ». Ce n'est pas une question de parole, c'est une question de vivre l'Évangile. Quand Jésus reviendra, il regardera et tout le train de notre vie va passer là sur ce qu'on avait, on a pu faire. Parce qu'il y en a qui se cachent derrière leur dîme. Mais des fois, la dîme, c'est le minimum, quoi. On peut aller au-delà. L'apôtre Paul, il dit que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Donc, on doit progresser aussi dans ce domaine. La dîme est un révélateur d'amour, un révélateur de générosité, un révélateur d'obéissance, un révélateur de foi. Quelqu'un peut dire amen. Voilà, si certains ont des problèmes avec ça, venez me voir, on étudiera la Bible. Là, Joël, il dit, ah non, je ne vais plus l'inviter, Patrick. Ouais, je ne devais pas parler de ça, mais j'en parle ce matin. Hein. Parce que ce n'est pas mon église, je peux envoyer, comme je veux. Non. Sylvain, je ne parle pas de ça dans mon église. Bon, je lui dis ce qui fait partie de mon église. Hein. Bon, c'est bien, c'est bien. Je donnerai un cadeau après. Est-ce que tu es une femme de foi? Est-ce que tu es un homme de foi? Est-ce que tu es soumis? Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que le Saint-Esprit a réussi à travailler de la sorte de fin que notre emblème, ce n'est pas le coq de la France, la cocorico, mais notre emblème, c'est Jésus-Christ, doux et humble de cœur. Soumettez-vous les uns les autres. Hein, en France, c'est ça, hein, cocorico, hein, on est revendicateurs, on aime bien faire la grève. Hein, on aime bien dire, non, moi, je ne mettrai pas le masque, moi, je ne prendrai pas le machin, le ci, le là. Moi, oui, moi, non. Hein. Ça, c'est le cœur de l'homme. Mais la mentalité du royaume, c'est une mentalité comme Abraham. Demande-moi ce que tu veux, je me soumettrai, j'obéirai, je ne ferai pas les choses. À ma sauce à moi, je les ferai à ta sauce à toi. Ce qui est important, ce n'est pas le commencement d'une chose, c'est la fin. Vous savez, mon beau-père, il a eu 5 enfants, quoi 6, hein, parce qu'il en a perdu une. Et en fait, il s'est converti parce que sa fille, Marilyn, la sœur de ma femme, elle a contracté une maladie grave qui est une leucémie, mais très importante. Et il a commencé à venir à l'église parce que son beau-frère l'a invité en lui disant que le Seigneur pouvait guérir sa fille. Et bien sûr qu'il peut guérir. Et la petite, elle s'est convertie à Jésus. Et elle a commencé à parler de Jésus. Elle a commencé à maigrir, elle a perdu la vue. Elle s'est retrouvée à l'hôpital à Marseille. Et au dernier hôpital, au dernier étage, on l'appelait l'ange du dernier étage. Elle parlait de Jésus à tout le monde. Elle souriait tout le temps. Et pourtant, elle n'avait plus de cheveux. Elle ne voyait plus. Et elle chantait des cantiques tout le temps. La joie de l'Éternel sera ta force. Mon beau-père, c'est un homme de Dieu, vraiment, aimant. Et à la fin, il a la petite dans ses bras et elle dit « Papa, ne pleure pas ». Elle chante par tous les saints glorifiés, un vieux cantique. Elle regarde son père, quoi, elle ne le regarde pas parce qu'elle ne le voyait pas, mais elle dit « Papa, ne pleure pas ». Elle me dit « Maintenant, Jésus vient me chercher ». Et elle s'endort. Quand on est parent, vivre un tel drame, c'est quelque chose qui peut nous anéantir et nous faire plonger dans une dépression profonde, non ? Le soir, pendant qu'ils dormaient, pendant leur repos, le Seigneur est venu chercher mon beau-père et ma belle-mère, Jean-Marie, Carmen, au travers d'un songe. Et là, ils ont vu la petite qui s'amusait avec d'autres enfants. Il y avait un champ plein de fleurs. Et ils se sont réveillés avec une visitation du Saint-Esprit et une joie profonde. Toute la famille qui était inconvertie, ils ont dit qu'ils ont quitté la terre, qu'ils sont devenus fous. Et moi, j'ai dit, mais c'est vrai, quand on est chrétien, on a quitté la terre, en fait. Hein. On n'est plus des gens d'en bas. On est gens d'en haut, vous êtes au courant? Mon beau-père aurait pu abandonner la foi. Mon beau-père aurait pu baisser les bras. Hein. Mais le Saint-Esprit a réussi à écrire quelque chose en lui. Que tu prennes, ou que tu me donnes, ou que tu ne me donnes pas, que tu me reprennes ce qu'il y a de plus cher, je continuerai à t'aimer et à croire en toi. On peut applaudir le Seigneur ? Vous savez, j'ai fait beaucoup de missions dans beaucoup de pays, dans des grandes églises, 4 000, 5 000 personnes. J'ai vu beaucoup de guérisons. J'ai vu des jambes repoussées. J'ai vu des gens se lever des chaises roulantes. J'ai vu des gens qui étaient muets, qui se sont mis à parler. J'ai vu des gens sourds qui se sont mis à entendre. Et mon beau-père, qui a maintenant Parkinson, il aime le Seigneur. J'ai prié pour lui et il n'a pas été guéri. Parce que l'apôtre Jean, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si on demande quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde. Ce n'est pas moi qui décide. Moi, je dois avoir la foi, bien sûr, mais c'est la volonté de Dieu. Et qu'il te donne ou qu'il ne te donne pas, continue de croire. Continue de croire que les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Ne baisse pas les bras, mais espère en Dieu. David était abattu à l'intérieur de lui-même. Il dira, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Et ma prière, c'est que tu espères dans le Seigneur. Et que peu importe par lesquelles épreuves tu es passé et tu passeras, tu continues encore de croire que le Seigneur, il est à tes côtés et qu'il ne t'abandonnera jamais. Je continue un peu? Si je vous dis Jean, l'apôtre Jean, à quoi penseriez-vous? C'est le disciple de l'amour. Viens, viens Joël, viens.
On aurait envie de se serrer dans les bras.
On aurait envie de s'aimer. On aurait envie de se pardonner. Parce que l'amour est plus fort que tout. Oui, non? Oui, non? Peu importe, Seigneur. Peu importe, Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas que j'ai raison. Ce n'est pas que je me fasse justice. Mais ce qui est important, Seigneur, c'est que je me débarrasse de tout ça et que je puisse t'aimer et aimer mon prochain. Dans quelques minutes, brabrabrabra. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que tout. Quand j'ai commencé le ministère il y a une vingtaine d'années, vraiment on a vécu des choses très fortes. La jeunesse à Aix, on a commencé à 20, on a fini à 130. Et avec moi, dans toute l'équipe du comité jeunesse, aujourd'hui maintenant il y a 8 pasteurs. Ça a été vraiment des années formidables. Et des fois quand tu vis des miracles, une croissance comme ça, tu crois que tu y es pour quelque chose. Tu crois que tu es quelqu'un. Tu crois qu'il n'y a personne comme toi sur la terre. Tu crois que c'est toi l'étoile du matin. Et d'un coup, le Seigneur, il va te dire, écoute, mon collègue, c'est moi qui fais tout. Hein? Ouais. Tu crois que tu es le meilleur des maris. Tu crois que tu es le meilleur des papas. Tu crois que tu es le plus beau de la terre. Ça, c'est l'orgueil. L'orgueil amène un aveuglement. Oh, mon collègue, c'est pas toi le plus beau, c'est pas toi le plus grand, c'est pas toi le plus fort, c'est moi, Jésus-Christ. Et moi, je croyais que tout allait bien dans ma life, moi. Hein? Et je jeûnais dans une semaine de jeûne pour avoir encore plus de puissance dans mon ministère, pauvre de moi, a dit. Eh oui, j'avais pas tout compris encore. Moi, bon, j'étais jeune. Hein. Bon, pas tant que ça quand même. Hein. J'avais une trentaine d'années. Mais comme on dit chez nous, qu'est-ce que j'étais abruti. Mais ce que je savais pas, c'est que ma femme a été malheureuse, elle. Parce que j'étais jamais à la maison. Je faisais l'évangélisation, je gagnais beaucoup d'âmes, il se passait beaucoup de choses. Mais j'allais à aucun spectacle de mes enfants. Et je voyais jamais ma femme parce que j'étais quelqu'un de consacré à l'Éternel. Bref. Ma femme, elle pleurait, elle disait, Seigneur, si c'est ça te servir, je l'accepte. Mais je ne suis pas heureuse. Le soir, j'étais dans la chambre de mon fils. Et là, je continue à dire, Seigneur, 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 parle-moi, je veux voir ta gloire. Là, j'ai vu la gloire de Dieu, mais pas comme j'imaginais. Et là, je me suis endormi au pied du lit de mon fils. J'ai entendu un bruit, ça m'a réveillé, j'ai sursauté. Et là, je vois un homme en blanc. Et je dis, Seigneur, c'est toi? Et là, il me sourit plein d'amour. Et je ne sais pas pourquoi je lui pose cette question. Je lui dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour plus t'aimer? Et là, avec plein d'amour, plein de tendresse et d'attention, il me dit « Aime plus ta femme. » Je sais même plus s'il était là ou il n'était pas là, mais moi, je n'étais plus là. J'étais à genoux, j'ai pleuré toute la nuit. Et le lendemain, convocation familiale. Et là, je reviens à la réalité. Et je demande pardon à ma femme. Et je dis, ma femme, je te demande pardon parce que je ne suis pas un bon mari. On va prier ensemble le Seigneur pour que je sois un meilleur mari. Les enfants, je ne suis pas un bon papa. On va demander au Seigneur, vous voulez les enfants pleurer? Mais quand on s'humilie devant le Seigneur et que l'amour de Dieu descend, on n'est plus dans un monde d'illusions. On n'est plus là. Je viens à l'église, j'ai un titre, je suis pasteur, je suis chanteur, je suis ancien, je suis diacre. Non, je suis rien du tout, Seigneur. Montre-moi dans quelle voie je suis. Montre-moi si je suis endormi. Montre-moi si je suis religieux. Montre-moi si, pour quelle raison je fais les choses. Qu'est-ce qui me pousse? Quelles sont mes motivations? Montre-moi, Seigneur. Et là, l'amour de Dieu, il te traverse parce que Dieu ne nous juge pas, mais il nous convainc de pécher. Ce n'est pas pareil. La conviction de péché t'emmène à une repentance, à une transformation. Je me suis repenti et Dieu a changé les choses. J'ai réformé plein de choses. J'ai appelé mon pasteur à l'époque. Allô, Alain? Oui, vous connaissez, hein? Alain Trichard. Voilà, le mercredi, c'est mon jour de congé. J'arrête ça. C'est pour ma famille. Il me dit, oui, mon petit, c'est très bien. Heureusement, je suis tombé sur un bon pasteur. Un autre, il me dit, ah, tu es licencié. Oh, Seigneur, ta grâce. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont commencé à changer dans ma vie. Parce que ce qui a l'autorité spirituelle, ce n'est pas de jeûner, bien sûr qu'il faut jeûner et prier, attention, hein, c'est très important. Mais c'est quand la parole de Dieu a l'autorité dans ta vie. C'est là que commence la véritable autorité. Quand la parole de Dieu a autorité dans ta vie, tu as une réelle autorité. Quand le Seigneur te dit, humilie-toi, ça ne va pas là, avec ta femme, ça ne va pas avec ton mari, ça ne va pas avec tes enfants. Je dis, ah mais c'est elle qui a commencé, c'est lui qui a commencé. Mais tu as vu la femme que tu m'as donnée? Tu as vu le mari que tu m'as donné? Mais il est pénible, Seigneur, c'est impossible avec lui, regarde la tête qu'il a. Mais si c'est le mari qui t'a donné, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et si c'est la femme qui t'a donné, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais Dieu ne veut pas que tu acceptes ton mariage juste comme ça. Le Seigneur, il veut que tu laisses son amour pénétrer ton cœur. Ma femme me pose souvent une question importante. Elle me dit, est-ce que tu m'aimes? Je dis, oui, ma chérie, je t'aime. Elle me pose une question qui tue. Mais est-ce que tu es amoureux? Ben oui, je suis amoureux de toi, ma femme. Parce que si on veut que l'herbe elle soit verte, il faut l'arroser. Il y en a qui s'imaginent que l'herbe, elle est plus verte ailleurs, mais l'herbe, elle est verte là où tu l'arroses. Et hé, c'est quoi le commandement de Dieu? Tu aimeras ton Dieu de quoi? Tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et qu'est-ce que j'entends derrière? Patrick, c'est moi ton Dieu. Est-ce que tu es amoureux de moi? Est-ce que tu es amoureux de moi? Est-ce que tu es amoureux de moi? Est-ce que tu m'aimes? Oui, Seigneur, mais est-ce que tu es amoureux? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es plus amoureux. Tu as perdu la flamme du premier amour. Il y a quelque chose que Dieu veut faire ce matin. Il ne veut pas que tu l'aimes juste comme ça, que tu crois en lui. Il veut que tu sois enflammé d'amour pour lui. Enflammé d'amour pour lui. Je suis pas en colère, hein. Est-ce que c'est possible? À 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, tout est possible à celui qui croit. Allez, je vais terminer par là. Non, c'est l'avant-dernier celui-là, parce que si on finit par là, on ne sera pas content. Si je vous dis Judas. Hein? À quoi on pense? Eh ouais, trahison. S'il rentrerait dans ce lieu ce matin, on aurait envie de se critiquer. Oh, le pasteur, il n'a même pas fait l'annonce de ça. Oh, il fait trop chaud ce matin. Non, il fait trop froid. Mais qu'est-ce qu'il fait, le pasteur? Il fait trop chaud, il fait trop froid, il ne sait pas ce qu'il doit faire. On aurait envie de médire les uns contre les autres. On aurait envie de critiquer toute la journée. Là, surtout dans le sud, on est professionnels dans ce domaine. On n'a pas envie hein, de transmettre ce genre de message. Hein? Ah punaise, elle rentre, c'est bon, elle va nous prendre la tête. Ah, vous n'en avez pas comme ça ici. Oh là là, elle rentre celle-là, oh là là, elle va me parler pendant une heure. Elle va me mettre la tête. Si je vous dis Jésus, à quoi penseriez-vous ? Pour pas que tu ailles en enfer, pour pas que tu ailles en enfer, pour que tu sois bouillant pour le Seigneur, pour que tu répondes à son appel, pour que tu aies un avenir, pour que tu aies la solution pour ta vie, pour que tu sois restauré, pour que tu sois guéri. Jésus s'est dressé il y a 2000 ans comme un bouclier, comme ça, en disant pas sur lui, pas sur elle, pas sur elle, pas sur lui, pas sur elle, pas sur lui, pas sur elle, mais sur moi. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. Jésus a dit non, pas sur elle, qu'elle ne meure pas, qu'elle n'aille pas en enfer, mais sur moi. Jésus s'est dressé comme un bouclier d'amour. Il s'est dressé pour que toi, tu ne sois pas châtié, mais pour que tu aies la vie éternelle, pour que tu sois restauré. Alors ce matin, est-ce que le Saint-Esprit arrive à rentrer des choses dans ton cœur ? Alors ce matin, est-ce que le Saint-Esprit a suffisamment par la parole de Dieu, embraser ton cœur pour te faire croire qu'avec lui, c'est possible. Tu es en dépression ce matin. Il y en a plein qui ne le savent pas, mais tu ne dors pas le soir. Tu vois tout en noir. Et à cause de ce que l'ennemi, par ses mensonges, a réussi à te faire croire que le soleil au-dessus de toi, il ne sera jamais en train de briller, mais que ça sera toujours noir et que ça sera toujours le brouillard. Tu as vécu des erreurs. Tu as fait des erreurs. Tu as vécu des échecs et tu as le cœur brisé ce matin. Mais le Seigneur veut te dire qu'il a été un bouclier pour toi à la croix. Et que le regard que tu dois avoir ce matin, c'est que la dépression, c'est que tous ces faux rêves, c'est que les faux espoirs, c'est-à-dire la frustration qu'a généré un échec dans le mariage, la frustration de ne pas avoir vu s'accomplir les choses que Dieu t'a promises. Ce matin, ne regarde plus ces échecs là devant toi là, et regarde, ils sont plus sur toi, ils sont plus sur toi, ils sont plus sur toi, ils sont sur le bouclier qui s'appelle Jésus, sur la croix, sans force, détruit, anéanti. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que la pianiste ou le pianiste ou un musicien là, peut venir là ? Merci. C'est important la musique, vous savez ? Gling, gling, gling. Quand il jouait de la harpe, qu'est-ce qui se passait, David ? Les démons, ils restent à leur place. Hein ? Comme par hasard, là, Saül, il se calmait. Parce que l'onction se manifestait au travers de la musique. Et de l'adoration qui était la vie de David. Vous savez, l'adoration, ce n'est pas juste de chanter du bout de ses lèvres. Hein, hein mon ami ? L'adoration, la véritable adoration... Oh, j'ai rien contre toi, hein, t'inquiète. Hein. La véritable adoration, c'est que tout ce que je dis, tout ce que je fais, élève la personne de Jésus. Ça, c'est la véritable adoration. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, élève la personne de Jésus. Là, je vais faire un premier appel par rapport à la prédication. Ensuite, on passera à la deuxième prédication. Ah non, je rigole pas. Ensuite, on va avoir un autre point pour le baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des gens au milieu de nous qui ne parlent pas en langue ? Levez votre main. Ok ? Vous allez tous parler en langue dans quelques minutes. Ah non, non, je vous le garantis. Je dis pas ça comme ça, moi. C'est clair et net et c'est sûr et certain. Eh oui, vous allez voir que bibliquement parlant, Dieu va le faire là. Parce que Dieu veut vous équiper. Ce n'est pas une option, le parler en langue. On va le voir tout à l'heure. Mais là, maintenant, on va se concentrer sur autre chose. Dieu veut faire de l'église d'Istre. Pas une église qui a pris un pli, mais une armée du Dieu vivant. Dieu veut écrire par son esprit dans ton cœur de nouveaux nouvelle écriture, quelque chose de nouveau en toi. Est-ce que ta vie, elle te satisfait? Est-ce que tu es content? Ça fait combien de temps que Dieu t'a parlé? 1 an, 2 ans, 3 ans? Dieu, il parle tous les jours, mes amis. Tous les jours, il parle. Tous les jours. Voilà comment vous devez prier, dira Jésus. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. Tous les jours, Jésus a une nourriture pour toi. Tous les jours, il a une parole de vie pour toi. Une parole de grâce, une parole d'amour, une parole de délivrance, une parole de restauration. C'est le moment de la délivrance ce matin. Et elle peut avoir lieu que si tu acceptes maintenant de faire un pacte avec Jésus et de dire c'est plus à ma manière, c'est à la tienne. C'est plus à ma façon, c'est à la tienne. On avait l'habitude de faire comme ça dans cette église. Mais non, on va faire différemment. On va faire comme toi tu veux qu'on fasse. Oh, j'avais l'habitude de venir bien habillé, bien comme ci, bien comme là, à parler d'une certaine manière. Détends-toi, mon ami, maintenant. Parce que ce que Dieu cherche, ce n'est pas des professionnels chrétiens. Ce n'est pas des adorateurs professionnels. Comme il dira la Samaritaine, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. C'est-à-dire des gens vrais, authentiques. Que l'esprit de vérité descende. N'aie pas peur, ma petite, excuse-moi. Ça va? Que l'esprit de vérité descende maintenant. Qu'il y ait la vérité au fond de ton cœur. Ma poulette. Alors crois de tout ton cœur ce matin à cette parole. Ils connaîtront la vérité les affranchira. Nos yeux sont fermés. Je voudrais faire un appel maintenant. Si tu as été touché par le message et que certains points te concernent ce matin et que tu n'y arrives pas et tu demandes comment tu vas faire, si tu crois que Dieu peut le faire et va le faire, alors lève-toi de ta place et je vais prier pour toi maintenant. Si tu décides de ne pas avoir raison, mais de te débarrasser de cette colère qui est en toi, du non-pardon qui anime ton âme. Seigneur, j'en veux plus, je ne veux pas me laisser détruire. Je dépose tout ça à la croix. Ce n'est plus sur moi, c'est sur la croix. Alors lève-toi et débarrasse-toi. 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 Laisse le Saint-Esprit le faire ce matin. Dieu t'a demandé des choses et tu n'obéis pas. Tu fais qu'à ta tête. Mais ce matin, est-ce que tu es prêt à dire « Demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Je veux vivre pour toi, Jésus. Jusqu'à ton retour, je veux vivre pour toi. Alors lève-toi. Je suis passé à côté, Seigneur, mais je veux te servir. Je veux te servir. » Je ne veux pas réussir dans la vie. Je veux réussir ma vie. Réussir sa vie, c'est réussir sa vie de couple, sa vie de famille. Tu ne parles plus à tes enfants, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Mais c'est le moment de la prière, c'est le moment de la foi, c'est le moment de croire que Jésus peut le faire, que Jésus va le faire. Il est le réparateur des brèches, il reconstruit les familles, il restaure ce qui est cassé, il restaure ce qui est brisé. Oh, viens ce matin dans sa présence. Je prie pour tous mes bien-aimés ce matin, pour mes frères et sœurs. Que là où le péché a abondé, ta grâce surabonde. Alors qu'il y a un esprit de repentance, alors qu'il y a un cœur qui dit « Je ne peux rien faire sans toi, j'ai besoin de toi. Seigneur, tu m'aimes et pourtant je n'ai pas été fidèle. Seigneur, prends ma vie, écris ces choses en moi. Je veux être un homme, une femme courageuse. Je veux transmettre les encouragements autour de moi. Je veux transmettre la foi, je veux transmettre l'amour, je veux transmettre la générosité, je veux transmettre le don de soi. Je veux que mon témoignage soit puissant. Alléluia! Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le crois? Alors qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus.